m'étonnes avec le temps qu'il fait.
Vous voulez boire un verre?
Volontiers.
Oh Adrien, tu me sers deux pastis.
C'est très chaud, non?
Bien, je transpire de partout.
Tu gourdes?
Et alors, vous voulez pas prendre le pastis?
L'apéro, le rendez-vous estival de Radio Campus Paris.
Je pense qu'on peut démarrer l'apéro.
Dans le très précieux cahier des doctorants distribué dans le laboratoire de recherche où j'effectue mon doctorat, on trouve en toute dernière page une liste de liens futiles. Évidemment, c'est ce que j'avais consulté en premier, c'est logique. Après tout, pourquoi commencer par le plus important? Parmi ces liens, il y avait Ciel mon doctorat, un Tumblr on ne peut plus classique, au principe désormais acquis et bien connu, une phrase commençant par « quand » illustrée d'un gif avec, en principe, une note humoristique ressortant des rapports entre le texte et l'image. Quelques exemples parmi les milliers de posts déjà enregistrés sur le site depuis sa création, quand je n'arrive pas à comprendre comment une amie combine tant d'activités en plus de sa thèse, illustrée d'un cavalier faisant faire de la corde à sauter à son cheval. Quand je veux avoir l'air d'un gars équilibré, cool et détendu en descendant la BNF, illustré d'un Donald Duck se dandinant dans la rue, ou encore, quand je suis seule à travailler quand toutes mes amies sont parties en vacances, et là, je vous laisse imaginer l'illustration, c'est de circonstance. À ne passer que quelques minutes sur Ciel, mon doctorat, qui est à la fois un défouloir et un exutoire, quiconque exercerait une autre activité professionnelle que le doctorat serait bien en droit de se poser la question « Mais pourquoi diable s'inflige-t-il ça ?» Pourquoi fait-on un doctorat? Et la question n'est pas totalement absurde, pourquoi faire un doctorat lorsque l'on sait pertinemment, avant même de se lancer dans l'aventure, que le chemin sera jonché d'obstacles? Manque de reconnaissance par les pairs, isolement, compétition extrême, manque de financement par les institutions, précarité du statut, et j'en passe. C'est pourtant bien qu'il doit y avoir une gratification, un plaisir, une joie infinie dans la recherche. Alors pourquoi donc le doctorat? Et quel état des lieux peut-on dresser de la situation des doctorants et des jeunes chercheurs en France? Nous avons ce soir, autour de notre table, trois invités pour y répondre. Tout d'abord, Éric Barazoal, bonsoir. Tu es le fondateur du projet Génération PhD qui a un peu deux pans. Le premier est une enquête à large échelle auprès de jeunes chercheurs et le second est un futur jeune média. Tu nous en diras plus tout à l'heure.
Absolument.
Également Camila de Barros Santos, bonjour.
Bonjour.
Tu es docteur et tu as récemment soutenu ta thèse qui avait pour titre le rôle des altérations lysonomanes.
Des lysosomes.
Des lysosomes, pardon, dans la progression du cancer de la vessie. Bah, tu nous en diras plus tout à l'heure. Et bonsoir à toi, Stéphanie Camidian. Tu prépares actuellement une thèse en art qui porte sur la relation entre l'œuvre d'art et le spectateur.
Bonsoir.
Alors, j'ai une première question toute simple à vous poser, Stéphanie, Camilla. Justement, pourquoi le doctorat? Pourquoi est-ce que vous avez commencé une recherche? Alors, c'est une question qui remonte un petit peu à il y a quelques années, mais voilà. Est-ce que vous vous imaginez, vous, en master, peut-être même avant, pourquoi est-ce que vous avez fait un doctorat? Déjà, ça, c'est, pour vous, c'est venu à quel moment? Et qu'est-ce qui a été le pas décisif vers l'inscription au bureau universitaire des thèses? Camilla?
Alors, moi, j'ai un parcours très atypique. Moi, je suis brésilienne d'origine, donc je suis dentiste au Brésil. Et en arrivant en France, je ne pouvais pas exercer en tant que dentiste parce qu'il n'y a pas d'équivalence de diplôme. Donc, je me suis reconvertie dans la recherche parce que c'était assez proche de mon parcours universitaire. Et ça m'a beaucoup plu. J'ai commencé par un master et par la suite, j'ai décidé de continuer. C'était le chemin le plus évident de continuer, de faire la thèse. Et aussi, je viens d'une famille de professeurs. Donc, du coup, ça me paraissait assez évident de suivre ce chemin.
Et le passage, justement, de la pratique à la recherche n'a pas été trop ardu. C'est une transition, finalement, qui s'est faite assez naturellement pour toi?
Oui, parce que j'ai fini l'université de chirurgie dentaire et je suis venue tout de suite après en France. Donc, je n'ai pas vraiment exercé en tant que dentiste. Et quand je suis venue pour faire une année sabbatique, et après pour la reconversion de la recherche, et là, du coup, c'était découvrir de nouvelles choses, parce que c'était tout un nouveau monde pour moi.
Et toi, Stéphanie, alors pourquoi le doctorat?
Bah, c'était évident pour moi. J'ai fait une thèse en art, enfin un master en art, pardon.
Alors, en art, c'est quoi en art? C'est pas de l'histoire de l'art?
Non, c'est art plastique et sciences de l'art. Donc j'ai fait un mémoire en art et je suis passionnée par la recherche et c'était évident, quoi. C'était une nécessité également, je ne me voyais pas faire autre chose. Et puis on m'a proposé, une professeure est venue pour me demander d'être sous sa direction et Du coup, j'ai accepté.
Quand tu dis nécessité, c'est nécessité intime, pas nécessité économique.
Ah oui, bien sûr, intime.
Voilà, on reviendra justement tout à l'heure à cette question de l'économie. Mais Eddie Barazol, je voulais te demander justement, c'est quoi un peu l'origine de cette grande enquête qui est Génération PhD ? Est-ce que tu pourrais nous expliquer d'abord quel est un peu le principe, le fondement de cette enquête ? Puis nous dire aussi pourquoi est-ce que tu t'es intéressé au doctorat, alors que, si je ne me trompe pas, tu ne viens de ton parcours, n'est justement pas celui du monde académique à proprement parler, à savoir celui du doctorat.
Tu ne te trompes pas, effectivement. Moi, j'ai plutôt un parcours... J'ai fait une école de commerce au début, dont j'étais diplômé au début des années 2000. J'ai commencé ma carrière dans les médias, en presse quotidienne, puis en presse quotidienne régionale. Et le hasard de la vie a fait... le hasard de la vie professionnelle a fait que j'ai intégré en fait un magazine scientifique à partir de 2012, le magazine La Recherche. Et c'est à partir de ce moment-là, à la fois que mon métier a changé et que... mes centres d'intérêt ont évolué en m'intéressant tout particulièrement au monde de l'enseignement supérieur et de la recherche. Donc j'ai découvert, grâce au magazine La Recherche, cet écosystème, cet environnement des chercheurs qui m'a particulièrement plu. Et j'ai aussi découvert les limites et toutes les questions qui se posaient justement autour des doctorants, des jeunes docteurs, des problématiques... de leur poursuite dans leur carrière professionnelle, de la précarité, enfin voilà, plein de sujets qu'on va certainement aborder tous ensemble pendant l'émission. Et l'an dernier, pour résumer et pour faire court, j'avais le projet en fait de créer un média à destination des jeunes chercheurs. J'ai même fait un programme d'incubation pour ce projet. Malheureusement, ce projet n'a pas eu lieu, il n'a pas accouché pleinement du média qu'on avait imaginé initialement. Mais j'ai pas complètement mis de côté toutes les réflexions, toutes les questions qu'on s'est posées pendant ces 3 mois d'incubation. Et je me suis dit, à minima, ce qui serait intéressant, c'est de questionner en fait directement les chercheurs sous un angle sociétal. Et il y a une enquête, il y a un ovni pour moi audiovisuel qui s'appelle Génération Watt, qui a eu lieu il y a quelques années, qui a interrogé la génération Y d'abord en France sur des questions donc toutes. Toute la génération Y, hein, pas les chercheurs en particulier, toute la société française sur des questions sociétales, leur rapport à leurs parents, à l'éducation, aux drogues, à la santé, enfin voilà, multi-thèmes. Et c'est un peu le démarrage de l'enquête Génération PhD qui m'a donné l'idée en fait de prendre cet angle-là et de dire que ce serait intéressant de s'intéresser, enfin de s'adresser aux chercheurs et aux chercheuses en leur posant des questions que eux-mêmes n'osent peut-être pas se poser. Qui s'autorisent pas à se poser ou qu'on leur pose pas spontanément et voilà, essayer de les interpréter et voir si il se passe des choses en fonction de l'avancement dans le doctorat ou des familles disciplinaires au sein desquelles ils évoluent.
Alors, une des questions qu'on peut trouver dans cette enquête, c'est par exemple, est-ce que la société française me reconnaît, moi et mon diplôme, à ma juste valeur ? C'est une des premières questions, évidemment, je pense qu'on peut tous se poser tout au long de la thèse. Comment est-ce que vous avez élaboré ces questions-là ? Est-ce que vous pourriez nous dérouler toutes les questions du questionnaire, mais plutôt nous expliquer comment est-ce que vous avez constitué justement ces points-là du questionnaire, comment est-ce que vous avez mis au jour, voilà, quels sont les points essentiels de ce grand questionnaire qui résume justement les grandes ou les petites aussi difficultés que peuvent rencontrer chercheurs et doctorants.
Alors, l'angle que j'ai voulu prendre au départ, encore une fois en m'inspirant de l'enquête dont je vous ai parlé réalisée par France Télévisions il y a quelques années, c'était de prendre un angle sociétal et d'essayer d'adresser des questions aux chercheurs sur à la fois leur ressenti personnel, leur ressenti professionnel et leur poser des questions d'opinion sur la recherche. Donc il y a une base que j'ai repris de l'enquête dont je vous parle et puis au fur et à mesure en rencontrant des doctorants, des doctorantes et des jeunes docteurs, j'ai fait évoluer le questionnaire progressivement en co-construction finalement avec des chercheurs issus de toutes les disciplines. Il y en a environ une douzaine qui ont participé et qui m'ont permis d'affiner et de peaufiner finalement le questionnaire. Pour vous donner un exemple, dans des questions de ressenti, où les doctorantes et les doctorants pouvaient s'exprimer. Il y a une docteure en neurosciences qui m'a conseillé, qui m'a dit « tu devrais rajouter dans mon quotidien de chercheur, je me sens en compétition ». Item que je n'avais pas relevé initialement. Donc j'ai pu faire progresser ce questionnaire, et ce qui a été intéressant et finalement ce qui m'a conforté, c'est peut-être la première fois où je l'ai présenté à une docteure aussi en neurosciences pour le coup. J'ai vu ses réactions en direct, donc j'avais pas l'enquête en ligne à ce moment-là, c'était une présentation PowerPoint. Et ce qui m'a beaucoup plus intéressé finalement, c'est les réactions qu'elle a pu avoir plus que les réponses qu'elle m'a communiquées, en me disant encore une fois, ah, effectivement, cette question-là, je ne me la suis jamais vraiment posée. C'est intéressant de prendre cet angle-là.
Alors, on va pouvoir revenir plus en détail justement sur ces différentes, les différents enjeux justement de ces questions. Mais moi, j'aimerais vous demander à toutes les deux, Camilla et Stéphanie, en fait, est-ce que vous pourriez nous dire en quelques mots votre sujet thèse ? Ma question, c'est pas de vous poser des questions sur votre sujet, mais plutôt, est-ce que vous pourriez nous dire, en nous parlant de votre thèse, comment vous ressentez ce clivage entre sciences dures et sciences humaines ? Moi, je suis moi-même doctorante, bientôt docteur, j'espère, en ce qu'on appelle des sciences humaines. Mais depuis le début de mon doctorat, on me dit tantôt tu fais une thèse en sciences humaines, tantôt tu fais une thèse en sciences sociales. Donc déjà, il y a cette idée d'un clivage que toutes les disciplines, par exemple, parce que je suis en sciences de l'information et de la communication, c'est considéré par une science humaine par certains comme une science sociale par d'autres. Du coup, on appelle ça SHS pour faire court. Mais finalement, j'ai toujours eu l'impression que ces distinctions entre sciences dures, sciences humaines, sciences sociales, humanité, étaient tout à fait factices et ne servaient qu'à créer des divisions au sein des universités pour faire des différences de financement. Comment est-ce que vous, en fonction de votre sujet de thèse, vous ressentez l'appartenance à une discipline, l'appartenance à un monde précis qui serait celui des sciences dures, des sciences sociales, de la théorie, de la pratique ? Camilla.
Alors, moi, j'étais en thèse à l'Institut Curie. Je faisais vraiment de la biologie fondamentale. Donc, pour dire la vérité, c'est assez éloigné d'un contexte social. Bien sûr qu'il y a toutes les maladies qui affectent la population, qui nous poussent à chercher des mécanismes et aussi des moyens de diagnostic et de traitement. Mais je ne me suis jamais posé la question entre cette frontière entre les sciences sociales, sciences de la vie. Et donc, du coup, je ne sais pas, je ne me suis jamais posé cette question.
Et toi, Stéphanie, est-ce que c'est quelque chose à laquelle tu as été confrontée, par exemple, cette idée que la recherche en sciences sociales ne serait que de la théorie et pas de la pratique, par exemple ?
Non, pas tout à fait ça. Moi, je fais une thèse en art, qui est une thèse recherche-création. Je crée et j'écris sur ma pratique et sur celle d'autres artistes, d'autres penseurs. Donc, il n'y a pas vraiment un clivage entre la création, enfin la pratique et la théorie dans ma thèse. Par contre, on fait une thèse en art et souvent, on nous dit qu'on a la double peine. C'est-à-dire qu'on doit produire une thèse de minimum 250 pages comme tous les autres thésards. Sauf que là, en plus de ça, on doit produire énormément, exposer, etc. etc. Donc, deux fois plus de travail pour finalement peu de reconnaissance. Je le vis quotidiennement. Mon copain, par exemple, fait une thèse en droit pour tout mon entourage pratiquement. Lui, il fait une thèse importante et moi, je suis un peu en vacances. Voilà.
Ça vous est déjà arrivé, cette idée de la sensation d'être en vacances, Eddie Barazol, c'est quelque chose qui est ressorti un peu de l'enquête, l'idée que les doctorants seraient tout le temps en vacances ?
Je ne l'ai pas trop reçu comme ça. Il y a eu pas mal de témoignages. En fait, à la fin de l'enquête, il y avait une question ouverte qui était, pour moi, être chercheur en 2018, puisque l'enquête avait lieu fin 2018, c'est... Et là, il y avait beaucoup de témoignages, d'expressions. C'était assez intéressant d'ailleurs de pouvoir les comparer, les analyser. On l'a fait un petit peu, on aurait pu le faire davantage, mais il y avait à la fois des idées très idéalistes sur ce que représente le monde de la recherche, et puis d'un autre côté, des témoignages plus pessimistes. Le terme de vacances, je ne l'ai pas trop entendu, ni le mot étudiant, par exemple, même si dans les ressentis des doctorants, par exemple, à la question est-ce que vous vous considérez comme un professionnel de la recherche ? Ce que tous les doctorants, dès la première année, devraient potentiellement valider, ou devraient valider tout court, on voit que ce sentiment, il n'est pas complètement assumé. Dès même la première année, il augmente, certes, mais à la fin de la troisième année, par exemple, il y a 70% seulement des doctorants qui valident cette information.
Alors justement, vous soulignez tous les deux un point très important qui est celui de la professionnalisation et de la reconnaissance. On y revient dans quelques instants juste après ça.
Ouais, ton regard de braise et tes airs conquérants, tes épaules en trapèze et ta belle énergie. Tu as le regard qui biaise de tous les doctorants et tu deviens obèse, pris dans ta léthargie. Tu dois finir ta thèse, tu dois finir ta thèse. Ton esprit de synthèse, ta volonté de faire et ton désir d'ascèse se sont-ils envolés au pied de la falaise? Tu ne sais plus comment faire, ta volonté de glaise, il faut la remodeler. Tu vas finir ta thèse. Tu vas finir ta thèse. Ce soir c'est reparti, tu t'enfermes chez toi. Tu vas finir ta thèse, ta décision est ferme. Ou au moins une partie, ou bien le petit 3, ou bien la parenthèse qu'il faut que tu refermes. Tu vas finir ta thèse. Tu vas finir. Tu vas finir demain, tu vas finir le 16. Tu vas finir en juin. Bon, tu reprends une 16. Tu fumes un dernier joint et soudain tu t'apaises. Doucement tu rejoins le mouvement des synthèses. Le mouvement des synthèses. Le mouvement des synthèses. Le mouvement des synthèses. Comme le dit Marie-Thérèse, ta voisine martiniquaise, c'est comme le piton de la fournaise. Ça prendra comme une mayonnaise. C'est des foutaises. Tu vas finir ta thèse. Comme le dit Madame Hernandez, dans sa sagesse toute portugaise. Si aujourd'hui nada se fez, bah, fica para outra vez. C'est des fadaises. Tu vas finir ta thèse. Mais quelle se taise, tu vas finir ta thèse. Tu aimerais trouver un max de pèse caché dans une attachée case. Tu partirais à Saint-Tropez. Tu irais faire du steeplechase. Et tu ferais pas ta thèse. Tu ferais plus du tout ta thèse. Même si la vie te pèse, écarte l'hypothèse de finir ta thèse au Père-Lachaise. Enfile tes charentaises, rassieds-toi sur ta chaise. Pas besoin de chanter la Marseillaise, mets-toi à l'aise. Tu vas finir ta thèse. Et ne vous en déplaise, et tant pis si j'ai tort, mais il me semble plus aisé de poursuivre une thèse plutôt qu'un minotaure. Tout le monde ne peut pas être taisé. Tout le monde ne peut pas être taisé. Tout le monde ne peut pas être taisé, taisé, taisé. Mais taisez-vous, punaise. Mais qu'il se taise. Tu vas finir ta thèse. Mais qu'il se taise. Tu vas finir ta thèse. 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 Tu vas... C'est infinissable. Mais tu vas la finir. C'est insoutenable. Mais tu vas la soutenir. Tu vas la finir, tu vas la soutenir. Tu vas la publier, qui sait. Tu vas finir ta thèse. 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 Tu vas finir ta thèse.
Et oui, il faut bien finir ta thèse. C'était Simon Bergeot, le militaire, le minotaure.
Garçon, deux bassines doublées, trois frites.
Pour un picombière, c'est moitié-moitié.
L'apéro, jusqu'à 20h sur le 93.9.
Rafraîchissant.
Oui.
Alors, on parlait à l'instant de cette question de soutenir la thèse. Voilà, cette chanson est un peu une injonction. Tu dois finir ta thèse, tu dois soutenir ta thèse, évidemment. Est-ce que vous ressentez parfois un climat je dirais, d'industrialisation du doctorat, enfin plutôt des injonctions très start-upiennes à la thèse, c'est-à-dire la thèse, c'est pas seulement l'écrire, la finir, la soutenir, c'est aussi faire de soi-même une entreprise, c'est soutenir dans des... communiquer dans des colloques, c'est écrire des articles, c'est avoir un bon score dans les revues, le nom m'échappe, mais l'indice de citation dans les revues scientifiques, c'est pas seulement de la compétition, mais c'est aussi de la collaboration avec les collègues, c'est la construction d'échanges avec d'autres laboratoires. Comment est-ce que vous ressentez un peu cette multiplication des injonctions telles qu'elles construisent la vie d'un doctorant? Et Camilla?
Alors, c'est dur, parce qu'il y a toutes ces questions qui se posent. Pendant la thèse, on vit la thèse 24 heures sur 24. Donc, effectivement, et chaque fois plus, c'est très compétitif. Donc, du coup, on doit se pousser à chaque fois d'aller plus loin. Moi, j'avais l'impression que j'allais pas réussi, parce que ça devient tellement dur que ça devient un fardeau, même si à la base ça partait d'une chose qui me plaisait beaucoup.
Est-ce que ce fardeau disparaît après la soutenance?
On le vit mieux.
Mieux.
Mais ça disparaît pas vraiment.
Et alors, est-ce que cette multiplication des injonctions, elle se ressent pareil en sciences humaines?
Alors oui, hein, tout à fait. Moi, je dois montrer mon parcours doctoral, donc un dossier dans lequel sont référencées toutes les choses que je fais à côté de la thèse, en lien avec ma thèse, les enseignements, les expositions, les publications, les colloques, etc., etc. La liste est longue. En gros, on est un peu en compétition, donc il faut faire le plus possible, arriver donc avec pas de moyens finalement à faire l'impossible.
Reste dans la mythologie finalement.
Oui, non, on nous pousse à faire le plus possible. Ce qu'on fait n'est jamais assez. Et la dernière fois que j'ai eu mon suivi de thèse, il n'y a pas très longtemps, on m'a dit « mais c'est pas une compétition ». En même temps, on me demande de faire ça et je suis très fatiguée et en plus on me critique sur ça. Donc bon.
Alors justement, là, ce que tu soulignes correspond généralement aussi à un autre reproche qui a été celui, par exemple, qui a été adressé à certains de mes collègues dans plusieurs universités, c'est « mais vous avez communiqué, vous avez écrit des articles, mais quand est-ce que vous allez écrire votre thèse ?» Donc il y a aussi finalement cette injonction contradictoire, ce « double bind » comme on dit, c'est-à-dire à la fois il faut ne pas faire que la thèse et valoriser en amont la recherche pour le monde professionnel, et en même temps il faut avoir une thèse à soutenir pour être un jour docteur. Eddie Barazol, est-ce que c'est cette injonction contradictoire, comment elle a été mise au jour dans votre enquête? Est-ce que c'est quelque chose... Je vous vois un peu étonnée par ce que je dis. Est-ce que c'est des choses qui ont émergé un peu des relations que vous avez pu avoir avec les enquêtés, ou au contraire, c'était tous des enquêtés très heureux et très épanouis?
Ce que je peux dire là-dessus, c'est que sur les sentiments, je vais revenir sur la compétition dont vous parliez, on sent qu'elle se renforce avec l'avancement dans le doctorat, de manière claire.
L'avancement année par année, vous voulez
dire ? Année par année, absolument. Les doctorants en première année valident à seulement 11% ce sentiment de compétition, quand ils montent jusqu'à 18% voire 24% lorsqu'on est en troisième année et plus, et qu'on est diplômé du doctorat.
Il y a seulement 24% qui se sentent en compétition ?
On leur a posé la question: dans mon quotidien de chercheur, je me sens seul, en compétition, respecté, soutenu, heureux, en souffrance, méprisé. Ils ont dû choisir différents items parmi ceux-là, et en compétition est celui qui ressort en tête. Donc c'est le sentiment finalement le plus fort parmi les différents sentiments qui étaient proposés dans l'enquête.
Du coup, on se sent plus en compétition qu'isolé, c'est déjà ça.
Il est vrai, mais l'isolement, le sentiment de solitude, il est assez proche. C'est les deux qui se...
On y reviendra peut-être juste après, mais je vous laisse finir.
C'est les deux qui se rapprochent. Tu parlais tout à l'heure d'industrialisation, peut-être de poursuite de carrière, de projection que peuvent avoir les interrogés, les doctorants de l'enquête. Il y a, je pense, des items, des pourcentages assez intéressants sur ces... Sur cette question-là, c'était une question qui était mon projet idéal de carrière, qui était proposé pour le coup spécifiquement aux doctorants. Et certes, le fait de rester dans le milieu académique était le projet idéal de carrière le plus mentionné, encore plus fort dans les sciences de la société, sciences humaines et humanité pour le coup. Là, on voyait des pourcentages qui étaient vraiment hauts. Mais épouser des carrières dans le privé, dans une start-up, dans une PME ou dans un grand groupe industriel, voire entreprendre sur la base de son cursus scientifique, devenir chercheur entrepreneur, sont des propositions qui ont aussi été validées par les interrogés, par les doctorantes et les doctorants. Dans une moindre mesure, certes, mais je pense qu'il y a quand même une prise de conscience que poursuivre dans la carrière académique est quelque chose de compliqué. Le sentiment de compétition, il se renforce peut-être encore plus après le doctorat, lorsqu'on fait un post-doc, on enchaîne un deuxième post-doc et qu'on essaye d'avoir un poste finalement de permanent.
C'est déjà bien si on arrive à enchaîner
permanent.
Deux post-docs. C'est déjà
Il y en a qui arrivent. J'ai vu une personne ce matin, docteur en sciences de la vie, qui a enchaîné deux post-docs et qui malheureusement n'a pas pu continuer. Et qui finalement a abandonné et qui est dans un projet de reconversion. Ça arrive, mais tout ça pour vous dire que la prise de conscience peut-être fait que les doctorants et les doctorantes interrogés perçoivent aussi d'autres idéaux de carrière en se disant voilà, le champ des possibles est peut-être plus large et il faut que je m'ouvre à d'autres possibilités que le champ académique qui est le champ initialement rêvé.
Alors Stéphanie, je te pose du coup la question parce que il me semble que c'est assez particulièrement sensible de manière assez accrue dans les thèses en sciences sociales et aussi dans les pratiques artistiques que tu évoques, parce que dans ce que tu décris, tu es du coup disons entre deux abysses de précarité que sont le monde académique et le monde de l'art, et je parle en connaissance de cause, hein, mais c'est disons deux domaines qui sont réputés pour ne pas donner beaucoup d'argent aux gens qui sont là, avec souvent quand même l'argument de « mais tu fais quand même ça pour le plaisir, pourquoi serais-tu payé ? Pourquoi te paierais-je pour faire une œuvre, puisque tu as pris plaisir à la produire, etc. etc. » Comment est-ce que, on peut parler de toi, mais aussi peut-être de tes collègues, de tes camarades, des autres doctorants dans la même situation que tu as pu rencontrer, comment on vit justement cet après de la thèse et cette idée du métier, de la pratique professionnelle de la carrière? Est-ce que c'est la pratique artistique ou la carrière académique qui va venir primer?
Oh, ça dépend des personnes.
Alors pour toi?
Moi, je suis une chercheuse en tant qu'artiste et en tant que théoricienne. Donc pour moi, ça va ensemble. Je voulais rebondir sur... le parcours, on va dire, extra-universitaire qui est en lien quand même, je pense qu'il est essentiel pour notre épanouissement parce que justement, nous sommes isolés en tant que chercheurs, non pas uniquement parce qu'on est plongé dans une recherche abyssale, mais aussi parce que c'est difficile de communiquer sur des problèmes de fond avec nos directeurs parfois, ou les autres professeurs, directeurs des universités, et également parce qu'il y a ce problème de compétition qui est mis en place, à mon avis, par le système universitaire. Hein. Pas vraiment... Alors, il y a des étudiants qui vont participer activement à ça, mais moi, je sais que ce n'est pas mon cas et que j'ai trouvé d'autres personnes qui, justement, en souffraient. Et j'ai pas mal d'amis, finalement, doctorants. Voilà. Alors, je crois que j'ai perdu la question qui était pour la suite de la carrière. Oui, artistique, académique, les deux mondes sont assez rudes.
C'est ça.
Franchement, j'ai même trouvé une autre solution, voire une quatrième solution, parce que c'est assez angoissant.
Ça, il faut des plans B, en fait.
Il faut des plans B, C, D, enfin, il en faut beaucoup. Pour moi, la radio, ça a été une façon de me sauver aussi, d'avoir de m'ouvrir, d'être aussi dans un rapport plus amique, enfin, je sais pas, d'entraide
et de bienveillance
et de bienveillance
vis-à-vis de la parole.
Oui. Voilà. Après, voilà, dans la pratique aussi, il y a un gros souci avec les universités d'art, il me semble. On ne met pas à disposition des étudiants du matériel ni des espaces pour la création. Clairement, la majorité des étudiants que je connais, enfin des doctorants, pardon, au fond même des étudiants, sont obligés de faire avec ce qu'ils ont, c'est-à-dire travailler avec des matériaux trouvés dans la rue ou faire de l'immatériel, ou alors travailler avec presque rien, quoi.
Oui, c'est-à-dire qu'ils ont intérêt à faire de l'art vidéo pour pouvoir présenter des projets.
Après, ça devient intéressant aussi de se plonger avec pas mal de restrictions, de limites. On peut trouver justement des solutions intéressantes, mais c'est quand même assez déplorable, il me semble.
On ne va pas trop présenter des sculptures en ivoire comme projet de fin
même
d'études.
Même pas pensable, non.
Je te voyais rebondir un petit peu, Camilla, sur cette idée à la fois du plan B, on va dire, et du sentiment de compétition progressif tout au long de la thèse.
Ah oui, absolument. Pendant la thèse, c'est comme tu disais... tous les ans, au final, on se sent de plus en plus en compétition. Et à la fin de la thèse, je me demandais qu'est-ce que j'allais faire, parce que je n'envisageais pas de recommencer, de reprendre tout ce stress et de tout recommencer avec un postdoc, avec un nouveau projet de postdoc. Et aussi pour après avoir passé un concours qui est très compliqué, qui a très peu de places, au final, il y a 5, 6, si on a de la chance, 7 places par an. Des concours au CNRS, INSERM.
Donc, c'est l'équivalent de l'agrégation pour les chercheurs en sciences dures. C'est chacun son, donc, chacun coup, son chemin de croix.
C'est ça, c'est pour être chercheur en vrai. Et donc, du coup, j'étais complètement perdue à la fin de la thèse. Je cherchais qu'est-ce que j'allais faire. Comment j'allais réussir à trouver une solution pour la suite?
Alors, vous évoquiez toutes les deux quelque chose d'assez intéressant qui était quand même un peu les manières de se désangoisser. On a parlé à la fois d'isolement et de compétition. Qu'est-ce que vous faites pour vous désangoisser du doctorat? Alors, Stéphanie, tu l'évoquais, il y a la radio. Moi, ça a été un des moyens pour me désangoisser de la thèse. Mais manque de peau, j'ai fini par faire une émission de radio qui portait sur mon sujet de thèse. Donc, au final, je me suis dit, ah, mais c'est génial, les deux sont super complémentaires. Et en effet, ça fonctionne bien, mais... Après, je ne parle que pour ma personne, mais j'ai souvent l'impression que plus on avance dans le doctorat, plus on a du mal à distinguer les domaines de sa vie. C'est-à-dire qu'on finit par fréquenter de plus en plus de doctorants, par parler de plus en plus de la thèse, avoir des activités qui sont en lien avec cette thèse, même quand on se dit qu'on va au ciné. On va se dire, ah oui, mais tiens, peut-être plus tel film que tel film. Enfin, bref. Du coup, est-ce que vous avez ce sentiment-là? Et puis surtout, qu'est-ce que vous faites quand vous ne travaillez pas votre thèse, que vous ne communiquez pas, que vous ne faites vraiment rien qui ait un lien direct avec votre activité professionnelle, Camilla?
Alors, les deux dernières années de ma thèse, je n'ai pas eu vraiment trop de coupures. J'ai travaillé les week-ends, les jours fériés. Donc, du coup, c'était vraiment dur. Le sentiment d'isolement, il venait. Après, ce qui m'a un peu sauvée, c'est que j'ai fait partie de l'association de jeunes doctorants et des jeunes chercheurs de l'Institut Curie. Okay. Donc du coup, j'ai construit énormément d'amitiés et du coup, c'était un peu mon groupe avec qui je pouvais partager tout ce que je vivais, parce que c'était des gens qui comprenaient.
Voilà, c'est ça. C'était quand même mal, même si c'était pour se désangoisser, ça reste un groupe interne. Exactement. De gens dans les mêmes situations.
Parce que mes amis, en dehors de ça, et ma famille, ils écoutaient quand je parlais de mon quotidien. Mais c'est vraiment tellement éloigné, c'est tellement abstrait que c'était
bien
compliqué.
Sûr. Stéphanie, toi, qu'est-ce que tu fais quand tu ne travailles pas ta thèse?
Le problème, c'est que tout est en lien avec ma thèse, voilà. Même mon émission radiophonique, qui est culturelle. Pour faire des pauses, et je travaille aussi, donc je travaille, et ça aussi en lien avec ce que je fais, mais de toute façon, je suis artiste, donc je suis foutue, il n'y a pas de limite, voilà, c'est foutu. Mais ce qui me fait vachement de bien, disons vachement, c'est de mettre un casque et d'écouter. D'écouter les gens, d'écouter mon environnement, ouais, prendre du son. Ça, la prise de son, c'est ce qui me fait vraiment du bien et ce qui me permet de décrocher.
Eh ben, on va pouvoir parler peut-être de l'après-doctorat, de tout ce qui se passe après. On a commencé à parler de la question de la carrière, on a commencé à parler de la question de la reconnaissance. Peut-être qu'on va pouvoir continuer un peu de tirer tous ces fils pour essayer peut-être de donner plein d'idées à nos futurs auditeurs qui se poseraient la question de savoir faut-il faire un doctorat ou pas, juste après ça.
Théâtre. Tout près de la sortie, c'est une place en or. Je regarde les gens qui meublent ce théâtre et qui baillent et rebaillent et qui rebaillent encore. Le professeur fait son cours sur l'histoire d'Angleterre. En 1066, invasion des Normands. En 1338, il y a eu la guerre, celle qu'on a appelée la guerre de Cent Ans. Ça semble bien long. 100 balles dans la machine et vous pouvez manger des sandwichs au jambon où il n'y a pas de jambon. Des étudiants, des jeunes ou bien ceux des haltères. Moi je pense à lundi où je serai au studio. Sans oublier que les mines de charbon d'Angleterre se trouvent à Liverpool, à Cardiff et Glasgow. Solo sur la pensée de Kant, de Bergson ou de Sartre. Quand ça devient mignon, c'est une licence de lettres. Petit costard cintré, grande fente dans le dos, qui vous dit volontiers, avec fierté peut-être, mais je ne lis que Gide, Verlaine ou Rimbaud. Qu'est-ce qu'on se marre à la vague de lettres? J'en ai encore pour quelques années peut-être. À la fac de lettres, j'en ai encore pour quelques années peut-être. Qu'est-ce qu'on se marre à la fac de lettres, j'en ai encore pour quelques années peut-être. Qu'est-ce qu'on se marre à la fac.
C'était la fac de lettres de Jacqueline Taïeb. Vous écoutez toujours l'apéro sur Radio Campus Paris.
Une autre bière.
L'apéro, c'est le rendez-vous estival de Radio Campus Paris.
Ok, à quelle heure?
À 19h.
Et ben c'est parti, l'apéro.
C'est maintenant.
Je vais m'attendre, petite sœur.
Alors Camilla, juste avant de s'interrompre, tu évoquais cette idée assez importante qui est celle de la communauté. En réponse à cette première question qu'on avait abordée ensemble, à savoir celle de l'isolement et du sentiment d'isolement pendant la recherche, tu évoques cette idée assez importante que finalement très vite on va se construire une communauté qui ne sera pas forcément sa première communauté, à savoir ses amis, sa famille, mais une communauté de chercheurs, de collègues, de gens qui vont presque partager les mêmes difficultés, les mêmes problèmes. Eddie Barazol, vous m'avez soufflé dans l'oreille pendant la pause musicale que c'était juste justement, que cette idée de la communauté, de l'entraide, était quelque chose qui avait émergé de manière assez frappante pendant l'enquête. Est-ce que tu pourrais nous dire un petit peu en détail de quelle manière il a été question de communauté dans cette enquête et peut-être de quelle manière est-ce qu'il y a des inégalités hommes-femmes et des communautés de femmes qui se sont mises en place dans ces résultats?
Alors, la première chose, de manière très opérationnelle, lorsqu'on a lancé l'enquête le 1er octobre 2018, l'idée première est justement d'aller sensibiliser, d'aller interroger sur le numérique, sur les réseaux sociaux, justement, les différentes communautés de jeunes chercheurs. Donc, j'ai intégré des groupes sur Facebook et il y en a beaucoup. Il y a plein d'initiatives de jeunes chercheurs et... une phrase que mon associé Laurent emploie souvent, il dit les chercheurs, c'est une communauté qui s'ignore. Et je trouve qu'elle est assez juste parce que finalement, il y a plein de micro-communautés qui n'ont pas conscience de la force et du poids qu'elles peuvent représenter et qui, à mon sens, malheureusement, n'interagissent pas encore suffisamment entre elles.
C'est quoi, par exemple, une micro-communauté comme ça?
Une micro-communauté, c'est à l'échelle d'une école doctorale, un groupe peut-être de 50 ou de 80 membres. Après, il y a des méga-communautés, tu parlais de Ciel Mon Doctorat pour introduire l'émission. Typiquement, je crois que c'est Florian qui anime le blog Ciel Mon Doctorat, il ne se rend à mon sens pas compte de la communauté qu'il a justement réussi à constituer. Il y a plus de 18 000 personnes qui sont abonnés à sa page Facebook, à son Tumblr aux différents réseaux sociaux, qui sont la minute sympa dans la journée, je pense, d'un doctorant, d'un jeune chercheur, plus qu'une minute. Et par exemple, Ciel Mon Doctorat a poussé 2-3 fois l'enquête, et j'ai tout de suite vu les effets de la force de sa communauté, puisque dans une journée, sur les 2500 personnes, sur les 2500 doctorants, jeunes chercheurs qui ont répondu à l'enquête, en une journée par exemple, il a peut-être, grâce à lui, il y a eu 200 ou 250 réponses d'un seul coup. Sur la deuxième question que tu abordais, la place des femmes dans la recherche, l'angle de l'enquête qui était sociétal sur des questions assez personnelles, parfois intimes, sur des considérations, sur des ressentis personnels et professionnels, pour moi il n'est pas anodin qu'il y ait parmi les 2500 répondants 62% de femmes qui ont participé à l'enquête, ce qui est une surreprésentation de l'effectif des femmes dans la recherche par rapport aux chiffres réels du ministère. Mais ça témoigne tout de même de la volonté de s'exprimer, de prendre la parole, de participer à une initiative, d'une certaine manière, de communication scientifique. Je vais un peu loin, je grossis très volontairement, mais il est assez évident que dans les témoignages et puis dans toutes les personnes que je peux rencontrer, on sent quand même un goût prononcé des femmes pour les sujets de vulgarisation, de transmission du savoir, et ce, quelles que soient les disciplines. Ça rejoint les questions que tu as posées à Stéphanie et à Camilla. Quel est votre poste d'air? On voit quand même beaucoup de jeunes chercheuses qui ont envie de s'impliquer dans des associations de jeunes chercheurs, dans des initiatives de vulgarisation scientifique, comme Paris Science, pour lequel j'ai contribué un petit peu, mais il y en a plein d'autres, la Semaine du Cerveau ou la Fête de la Science, et plein d'autres initiatives qui sont, je pense, des bons bols d'air. Pint of Science. On doit parler d'Élodie, effectivement, c'est important.
Bien sûr.
Et voilà. Tout simplement.
Alors justement, je vais rebondir directement sur ce que tu évoques pour vous poser cette question. C'est un des premiers mots qui a été prononcé, je pense, dans nos échanges, c'est celui de reconnaissance. On a parlé de carrière, on a parlé de développement, on a parlé de communauté. Est-ce que finalement tout ça n'est pas lié à ce mot-clé-là qui est celui de la reconnaissance? Et on peut entendre le terme de toutes les manières possibles, reconnaissance par les proches, que son copain, sa copine, ses amis ne disent pas « Ah bah tu prends une année sabbatique, ah bah t'es en vacances, ah bon tu bosses pas les jours fériés ?» Que ce soit la reconnaissance par l'institution, sa propre institution, le directeur de thèse qui va lire avec attention les pages qu'on lui rend et pas les lire en diagonale, la reconnaissance de l'école doctorale qui va bien valider notre parcours doctoral et qui ne va pas faire mine de remettre en cause le travail fourni, et reconnaissance bien sûr par le monde du travail, que ce soit dans une première étape de trouver du travail et éventuellement dans une deuxième étape de le voir rémunéré à hauteur de ce qu'on pourrait souhaiter, parce que il va de soi qu'avec un bac plus fit, on pourrait espérer plus qu'un SMIC, et les actuelles contestations dans le milieu universitaire soulignent le fait que les enseignants vacataires sont payés moins que le SMIC. Du coup, je vous pose cette question, Camilla, Stéphanie, est-ce que ça vous évoque quoi, cette question de la reconnaissance? Est-ce que vous en souffrez? Est-ce que la communauté y est un remède? Comment est-ce que vous ressentez cette idée-là de la reconnaissance, à la fois sur le plan intime, institutionnel et professionnel? Camilla.
Alors, la reconnaissance autour de moi, de ma famille, mes amis, ça, je pense que j'ai toujours eu. Par contre, la reconnaissance professionnelle, je suis pas sûre. Je pense que c'est vraiment la thèse, le doctorat, il est encore vu comme juste un parcours universitaire. Donc, là, je suis employée dans un centre de recherche. Donc là, j'ai une reconnaissance par rapport à mon titre, mais j'ai une autre expérience cette année où peu importe le titre que j'avais, peu importe le temps que j'avais mis pour travailler, pour avoir le doctorat, pour la gestion des projets, parce qu'au final, c'est une gestion de projet qui dure 3, 4, 5 ans. Donc ça, c'est pas du tout reconnu. C'était pas du tout reconnu. Mais je pense que si on reste dans le milieu académique, peut-être qu'il y a encore cette reconnaissance. Mais en dehors du milieu académique, c'est encore dur. Les gens n'ont pas encore cette idée.
Stéphanie ?
Pour moi, donc, j'ai la reconnaissance des gens qui me voient travailler, qui comprennent que, en effet, je suis une grosse bosseuse et que, malgré tous les problèmes financiers, de reconnaissance aussi sociétale, j'y vais. Professionnellement, non, hein, y a pas de reconnaissance vraiment. Moi, je suis payée au SMIC et je suis en quatrième année de thèse. Et j'ai un parcours extra académique assez conséquent quand même, assez riche. Je ne sais pas. Oui, non. Il y a un gros manque de reconnaissance.
Ouais. Alors, est-ce que justement une des vocations de Génération PhD, c'est d'essayer d'accompagner les doctorants et les jeunes chercheurs dans cette situation de manque de reconnaissance, d'essayer justement de créer les réseaux, je dis pas de créer la mobilisation, mais en tout cas d'essayer de créer déjà une meilleure connaissance de l'état du marché du travail et peut-être d'essayer de créer comme ça une fortification des doctorants vis-à-vis du marché du travail, de la vie active?
C'est une question que beaucoup de doctorants, acteurs du doctorat m'ont finalement posée en disant quelle est la suite possible de Génération PhD, parce que finalement on a dressé un constat mais qui reste un peu dans l'entre-soi finalement. On pourrait tout à fait prendre des données, en extraire quelques-unes et essayer de les porter un peu plus à la société, aux entreprises, au monde, j'ai envie de dire, hors académique. Et à mon avis, il y a vraiment des initiatives à mener pour essayer de valoriser davantage le doctorat au-delà du système universitaire et du système académique. C'est pas le yaka faucon, mais l'idée est de pouvoir le porter un petit peu plus loin. Je crois que Pôle emploi reconnaît le diplôme du doctorat depuis cette année. Avant, c'était une case qui n'était pas abordée, qui n'existait pas vraiment
dans les fameux rendez-vous Pôle emploi.
Dans les cases, dans pas mal d'entreprises, et y compris dans des grandes entreprises du CAC 40, le diplôme du doctorat, ils n'ont pas non plus des statistiques ou des chiffres assez pointus, comme ils peuvent l'avoir peut-être sur d'autres profils de diplômés d'école de commerce ou d'école d'ingénieur. C'est un sujet qui progresse, mais dont les lignes bougent encore lentement. J'ai assisté à une journée du doctorat qui a eu lieu au Collège de France le 18 juin, je crois, et j'entendais un député du Var qui racontait que sur un rond-point, en discutant avec des gilets jaunes, il évoquait l'exemple d'un chercheur bac plus 17 qui était payé à peine plus que le SMIC, et les gens, les gilets jaunes en l'occurrence, ne comprenaient pas et ne le croyaient pas. Donc voilà, je pense qu'il y a vraiment un décalage entre la perception de la société qui connaissent pas, qui n'ont pas les codes, qui n'ont pas les clés de ce que font finalement les chercheurs, et en plus de leur réalité. Donc la suite possible, on a une idée en tête avec une association de jeunes chercheurs. Je peux pas encore en parler pleinement, mais on a l'idée de faire une initiative plutôt ludique, pédagogique, à la fois à destination des chercheurs, mais aussi de la société, pour mettre en lumière quelques réalités de manière amusante et pas anxiogène sur les chercheurs, et plutôt sur les jeunes chercheurs en l'occurrence.
Alors, je viens de le souligner, cette question des différentes initiatives qui sont mises en place, elle est aussi due et conditionnée par une méconnaissance finalement de la société, de ce que c'est que le doctorat. Stéphanie, Camilla, on a parlé un peu de vos proches, de votre expérience professionnelle, mais si vous pensez de manière un tout petit peu plus générale, quelles sont les principales idées reçues, les principaux archétypes auxquels vous êtes confrontés au quotidien? Je parle pas seulement de vos proches, des dîners en société, d'une soirée où on vous demande c'est quoi ton sujet de thèse, mais plus comment est-ce que vous percevez la manière dont la société perçoit le doctorat et votre place en tant que docteur et en tant que chercheur dans la société. Est-ce que c'est pas justement un problème d'idées reçues et de représentation du chercheur en blouse blanche qui sauve des vies d'un côté et du chercheur académique qui lit des livres en latin de l'autre? Quelle est votre impression quant à cette perception sociétale, Camilla?
Je pense que les gens se rendent pas compte que c'est du travail. C'est pour eux, c'est juste des études. Et donc du coup, j'ai déjà entendu des questions. Quand est-ce que tu vas commencer à travailler? Alors que j'étais en thèse.
Études perpétuelles.
Oui, c'est ça. Donc c'est ça. Je pense que c'est ça le ressenti de le manque de reconnaissance de la société, parce que pour eux c'est vraiment très éloigné et très inconnu au final.
Stéphanie.
Bon, alors je le répète, je fais une thèse en art. C'est compliqué. La plupart des gens sont d'accord pour dire que l'art est très important pour notre société, mais clairement une thèse en art pour eux c'est faire ce qui nous plaît, quoi. Et puis, bon, être un peu paumé dans la vie et squatter chez ses parents ou vivre de rien et de
s'accommoder.
Voilà, de s'accommoder de rien et puis d'être dans une boîte de garage comme ça, masochiste peut-être. Enfin, être paumé, quoi. Donc, c'est assez dur. C'est assez dur.
Eh ben alors justement, moi on va reparler de tout ça, mais on va avoir une brève pause musicale et juste après on entendra le témoignage d'une doctorante en vacances. Et puis j'aimerais qu'on réagisse collectivement ensuite sur comment est-ce qu'on arrête le doctorat de temps en temps ou de manière permanente, et comment est-ce qu'on se projette dans l'après du doctorat. Et c'est juste après ça. À l'instant, c'était Sans toi de Johnny Ripper. Vous écoutez toujours l'apéro sur Radio Campus Paris.
Garçon, deux bassines doubles et trois frites.
Pour un picon bière, c'est moitié-moitié.
L'apéro, jusqu'à 20h sur le 93.9.
Rafraîchissant.
Oui.
Et à l'instant, nous venons d'être rejoints au téléphone par Salomé. Bonjour Salomé.
Bonsoir.
Merci beaucoup d'être avec nous sur cette antenne. Alors, j'aimerais te poser une première question. Finalement, on a abordé pas mal de questions pendant cet entretien. On a parlé de reconnaissance, on a parlé de communauté, on a parlé de perception du doctorat par les proches. Moi, j'aimerais te poser une question qui est extrêmement empirique. On est bientôt le 25 juillet. Tu es doctorante en première année. Est-ce que tu prends des vacances? Qu'est-ce que ça veut dire pour toi, les vacances associées au mot doctorat?
Eh bien, c'est en effet un sujet d'actualité et une question qu'on me pose souvent. Et alors, c'est quand les vacances pour toi? Alors, c'est un peu compliqué. J'essaye de me dire que je vais prendre des vacances, mais j'ai l'impression que ce moment n'arrive jamais pour diverses raisons, pour des rendez-vous, des réunions qui vont tomber à des dates clés. Et donc, c'est un peu compliqué, en effet, de prendre des vacances.
Est-ce que tu as l'impression, finalement, que ta thèse te suit partout, t'accompagne partout et ne te quitte pas, que tu ne peux pas lâcher prise?
Ah bah, complètement. Je pense que pour lâcher prise, il faudrait que je coupe mon téléphone, que je jette mon ordinateur. Voilà,
en faisant des sauvegardes avant?
Oui, voilà. Effectivement. Mais oui, en effet, c'est très compliqué un mail, ça arrive très vite. En plus, maintenant, on a tout. C'est comme si on avait un bureau dans lequel on pouvait tout laisser. Donc, pour prendre des vraies vacances, je pense que ça demande un effort de préparation.
De préparation mentale, finalement, il n'y a pas de droit aux vacances comme l'aurait un salarié avec le 13e mois et les chèques vacances.
Oui, je pense que ça demande un gros effort personnel, déjà pour réussir à se le dire à soi-même, et aussi peut-être de le dire aux autres, en fait, parce que finalement, on a toute l'année pour se dire je suis en vacances à telle période, et comme un salarié, on va pas pouvoir mettre un petit mail de retour en disant voilà, je rentre dans 3 semaines, enfin en tout cas, j'ai jamais vu ça pour l'instant. Donc je pense que le mieux, c'est peut-être de préparer le terrain autour en disant voilà, je serai pas joignable telle date à telle date. Je trouve que ça, c'est difficile, mais ce serait une solution.
Bah alors, en effet, moi, j'invite, pour le coup, je le fais en tant que chercheuse et j'enjoins tous les collègues chercheurs à le faire. Le retour automatique de mail, c'est un signal au monde que l'on prend des vacances. Mais ouais. Justement, plus sérieusement, en fait, on évoquait tout à l'heure une question qui avait quand même une idée reçue auquel on était souvent confronté quand on était chercheur, quand on était doctorant et particulièrement doctorant en sciences humaines. C'est les proches qui disent qu'on est tout le temps en vacances. Qu'après tout, comme il n'y a pas forcément toujours d'horaire, qu'on n'a pas forcément besoin impérativement d'être tous les matins à 9h à tel endroit et qu'on peut arrêter un jour à 16h parce qu'on a fini de lire le bouquin qu'on avait à lire. Du coup, la perception de l'entourage, ça va être t'es tout le temps en vacances, tu ne travailles pas vraiment, ok, t'as un salaire, mais t'es quand même un peu payé à rien faire. Franchement, tout ça, c'est l'argent de nos impôts, etc. Mais alors, comment se fait-il pourtant que si tu es toujours en vacances, quand je dis tu, c'est toi comme nous tous, si tu es tout le temps en vacances, comment se fait-il que ce soit aussi difficile de prendre des vacances?
Oui, en effet, c'est vrai qu'il y a, un vrai manque de reconnaissance à ce niveau-là. On a l'impression qu'on est tout le temps en vacances. Mais d'un côté, je trouve aussi que ça sert beaucoup à ces personnes-là qui disent, bon, bah, comme toi, tu peux quitter plus tôt, tu peux peut-être t'occuper de ci, tu peux peut-être t'occuper de ça. En tout cas, moi, sur ma première année, j'ai vraiment eu ce sentiment que ça arrangeait bien tout le monde, finalement, que j'ai du temps libre. N'ai pas du temps libre finalement. Après, comment faire si j'avais la solution, ce serait vraiment merveilleux.
Stéphanie, je te voyais réagir, acquiescer.
Moi, je suis toujours celle qu'on contacte pour le service à telle heure. Donc, c'est.
Tu fais du cat-sitting tout l'été?
Non, mais c'est ça. C'est comme si on ne travaillait pas.
Eddie Parasol, je vous voyais aussi acquiescer, réagir. J'imagine que dans ce témoignage, vous vous retrouvez dans des choses que vous avez déjà entendues.
Alors que j'ai entendu d'une part, mais je me projette aussi, je pars en vacances demain, une petite semaine. Ça fait un an que je n'ai pas pris de congé. Et je prépare une rentrée active, donc j'étais en train d'y penser en même temps. Je pense à ma semaine de vacances, mais surtout à ce qui va arriver après, puisque je prépare le lancement d'un média à destination des chercheurs qui s'appelle The Meta News. On va lancer, on est en train de construire un site avec mon associé. C'est un média qui s'adresse aux chercheurs pour leur parler de leur métier, de leur profession de chercheur, avec une dimension professionnalisante. Donc je coupe là-dessus, on va faire une campagne de financement participative à la rentrée. Il y a beaucoup d'actions et un gros chantier. Donc voilà, j'entends ce que dit Salomé. Je pense à mes vacances, mais je pense aussi à tout ce qui va se passer après.
Bien sûr, finalement, on ne s'arrête jamais vraiment. Alors, Camilla, peut-être, comme tu es la docteure de cette tablée, est-ce que tu pourrais nous rassurer, nous dire qu'il y a des vacances en quelques mots? Tu prends des vacances?
Bah, maintenant, oui. Mais pendant ma thèse, elle était toujours avec moi. On ne fait jamais de pause.
Eh bien, écoutez, merci beaucoup à tous. Merci à toi, Salomé. Et merci à nos invités, Eddie Barazol, Camilla Barras-Santos et Stéphanie Camidian. Merci à Alexandra pour la préparation de cette émission et à Antonin pour la réalisation. Tout de suite, vous pourrez retrouver Face au mur de Pitoum à l'antenne de Radio Campus Paris. Bam, 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 bam.